La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro de La Science s'amuse, l'émission scientifique coproduite par l'Université de Montpellier et Divergence FM qui vous emmène en croisière dans les laboratoires de l'archipel Muse. Et aujourd'hui, Terre en vue, nous jetons l'encre sur nos territoires et plus précisément sur nos régions. Le 1er janvier 2016, la France se réveillait avec non plus 22 régions, mais 13. Cette loi, annoncée comme un des piliers de l'acte 3 de la décentralisation voulue par François Hollande, n'est pas née sans douleur. Rappelez-vous, de l'Alsace craignant une possible domination de Nancy à Nantes, revendiquant son lien historique avec la Bretagne, en passant par le centre isolé, la carte française s'est soudainement transformée en véritable casse-tête chinois. À la veille des élections régionales, les premières depuis l'application de cette réforme, celle-ci a-t-elle atteint ses objectifs, pardon. D'ailleurs, quels étaient-ils ces objectifs? Comment ce redécoupage géographique a-t-il impacté les compétences régionales déjà bousculées par la loi NOTRe, autre axe fort de la décentralisation? On en parle aujourd'hui avec notre invité, il est politologue au CEPEL, le laboratoire de sciences politiques de l'Université de Montpellier. Il a co-dirigé avec Vincent Simoulin, sociologue à Toulouse, un ouvrage collectif intitulé « La fusion des régions, le laboratoire occitan ». Emmanuel Négrier, bonjour.
Bonjour.
Elle est connue de Figeac à Gimont en passant par Gruissant ou Lézignan-Corbières. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Emmanuel Négrier, peut-être que pour commencer, on peut faire un petit rappel. Dans quel contexte et avec quels objectifs, j'en parlais en introduction, avec quels objectifs s'est effectuée cette fusion des régions?
Alors il y a des objectifs objectifs, si on peut dire, et des objectifs latents. Ceux qui sont officiels sont le discours sur une rationalisation du gouvernement régional et sur le fait de hisser des régions, devenues donc grandes, à l'échelle européenne. En réalité, un autre objectif, quand on reparcourt l'histoire récente, apparaissait comme encore plus évident et plus prégnant. C'est celui de François Hollande en particulier, qui, au moment où il décide de la fusion des régions, alors qu'elle n'était pas du tout dans son programme présidentiel, se heurte à deux difficultés, des résultats assez mauvais lors des élections municipales de 2014 et une fronde à l'intérieur du Parti socialiste contestant sa ligne politique. Eh bien, rien de mieux qu'une transformation de la carte électorale pour agiter le mundillo politique et le rendre attentif à autre chose qu'à ces deux aspects un petit peu problématiques pour lui. D'une certaine manière, il y a un échec des deux côtés. L'échec pour François Hollande, il n'a pas fait dévier l'attention positivement en sa faveur. Et deuxièmement, les régions qui ont été le résultat de cette fusion n'ont pas donné naissance à des entités d'envergure européenne au sens où on aurait pu l'imaginer.
Et donc le sous-titre de votre livre, c'est « Le laboratoire occitan ». On va donc parler de la région Occitanie. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des spécificités de cette fusion entre les ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées?
Oui, alors c'est une fusion qui est particulièrement passionnante parce qu'elle est particulière si on la compare à d'autres fusions. C'est la seule fusion qui fait intervenir deux régions qui étaient chacune dotées déjà d'une métropole. Donc, dans le discours officiel, c'était une fusion qui était critiquable. On aurait pu imaginer que les deux régions restent, avec chacune leur métropole, indépendantes. Et d'ailleurs, c'est la dernière région à avoir fusionné, si on imagine 30 secondes, François Hollande, tard le soir, avec son crayon et sa carte, en train de dessiner la nouvelle carte des régions. Mais il y a eu une carte à 14 régions jusque pratiquement au dernier moment. Et le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées étaient séparés. Donc ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité, c'est que c'est de toutes les fusions, la fusion la plus égalitaire entre des régions qui étaient à peu près, sur le plan démographique en tout cas, d'égale force ou à peu près. Hein, on estime que d'ici une dizaine d'années, la partie Languedoc-Roussillon sera à peu près aussi peuplée que la partie Midi-Pyrénées. Ça se joue à très peu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'intrigue, c'est de savoir si, parce que ce sont deux régions à peu près équivalentes, ça va bien se passer, ou parce que ce sont deux régions à peu près équivalentes, ça va très mal se passer.
Et on a la réponse?
Et on a la réponse.
On y viendra, on va garder le suspense. Donc on se souvient justement donc, de ces grands débats en 2015 qui ont animé toutes les régions, mais peut-être encore plus particulièrement la nôtre, et qui tournaient aussi autour de cette identité. On se souvient, il y a eu des votes populaires pour le nom de cette région. Quelle identité devait-elle refléter? Aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé à une identité commune? Et finalement, est-ce que cette question, elle se pose? Est-ce qu'elle est pertinente?
Ah bon, en tout cas, nous, on se l'est posé, parce que c'était quand même... c'était quand même une des intrigues de la recherche avec Vincent Simoulin, consistait à dire ben finalement ce qu'on sait de la régionalisation, c'est que grosso modo c'est un niveau d'action publique faible et assez mimétique à l'égard de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de politiques qui sont concertées avec l'État, des contrats de plan État-région, etc. Que donc il y avait peu de chances pour trouver des politiques différentes entre régions fusionnant. Et la grande surprise, c'est que c'est incroyable de voir à quel point, sur tous les niveaux, les différences entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon étaient importantes. D'une certaine manière, c'est au moment où on fusionne les régions qu'on découvre que la régionalisation existait. Grande surprise. Et on le voit dans tous les secteurs, on le voit aussi dans les cultures politiques. On a là deux régions dirigées par des leaders incontestés, qu'était Georges Frêche entre 2004 et 2010, pardon, et Martha Malvy, encore plus longtemps, en Midi-Pyrénées, socialistes tous les deux, depuis donc plusieurs mandats. On se disait, bah, finalement, voilà, on est là dans une fusion entre amis, et ça va bien se passer. Et en fait, on découvre que la culture politique d'un côté et de l'autre était complètement différente. En gros, pour faire court, en Languedoc-Roussillon, quand on fait de la politique, on l'a fait en se construisant dans le conflit avec l'autre. Hein, c'est une politique de mauvais garçon. Et en Midi-Pyrénées, au contraire, on est plutôt des bons élèves. Et donc, on est très respectueux les uns des autres. Alors, bien sûr, il y a des frontières, il y a des choses inadmissibles. On se permet plus de choses en Languedoc-Roussillon qu'en Midi-Pyrénées, par exemple. Mais en gros, la vie politique, elle est orientée vers le compromis. Et quand vous réunissez deux cultures politiques aussi différentes, bah, vous avez compris que ce n'est pas si simple.
Et alors, est-ce que Carole Delga, elle a réussi à incarner quelque chose entre les deux, justement?
Alors, je ne sais pas combien de moteurs de voiture Carole Delga aura épuisé au cours de ce mandat. Mais ce qu'on peut de toute façon lui reconnaître, c'est un activisme absolument incroyable pour faire exister cette région autour de sa personnalité, alors même qu'elle était un petit peu déniée par un certain nombre d'acteurs qui préféraient finalement rester dans un statu quo de leur propre politique publique ou de leur propre horizon politique. Et du coup, Carole Delga, je pense qu'elle a fait tout ce qu'on pouvait imaginer faire pour faire exister cette région en dépit des difficultés qu'elle a rencontrées.
Alors, vous nous parlez des acteurs. Justement, très concrètement, qu'est-ce que ça a changé au quotidien des élus, cette fusion?
Ben ça, alors, des élus et des administrateurs. N'oubliez pas les administrateurs, parce que alors, la fusion des régions, elle a été particulièrement difficile à vivre pour, au sein des services. Au sein des services qui se sont retrouvés d'un seul coup à devoir faire des réunions à Narbonne, à partir la veille pour aller assister à une réunion à l'autre bout de la région qui est désormais à plus de 6 heures de route. Pour les élus, c'est pareil. Alors, les élus régionaux sont un tout petit peu hors sol par rapport à des élus cantonaux ou municipaux. Mais là, hors sol, ça a pris une tournure tout à fait différente. Et il y a des élus qui sont passés pas loin du burn-out. Certains ont vécu, d'ailleurs, un burn-out complet, faute de pouvoir assumer l'ensemble des tâches de représentation, de décision, que supposait l'exercice d'un mandat hors norme, désormais.
Alors, ça pose la question justement d'un des objectifs qui était affiché dans cette fusion, c'est-à-dire les économies d'échelle et un gain d'efficience. Est-ce que ça s'est réalisé finalement cette...
Bon, l'idée de réaliser des économies d'échelle à court terme après une fusion de régions est une idée, je dirais, d'après-repas bien arrosé. Personne n'y croit, personne n'y croyait. Et d'ailleurs, quand André Valigny, le secrétaire d'État qui était chargé de cette question-là, a dit ça, son cabinet a levé les sourcils de surprise. C'était une déclaration spontanée qui n'a d'ailleurs pas été reprise très souvent, vous l'avez remarqué. On ne peut pas imaginer des fusions d'organisations politiques, mais d'ailleurs même d'entreprises, en imaginant à court terme réaliser des économies d'échelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une série de choses qui deviennent d'un seul coup plus coûteuses. L'harmonisation des régimes indemnitaires des services, des agents. Vous n'allez pas harmoniser par le bas. Vous allez donc faire assumer des choses nouvelles à des gens que vous allez remercier en harmonisant les régimes indemnitaires par le haut. Vous allez assumer des coûts de déplacement en plus grand nombre. Vous allez équiper les services régionaux de vidéosurveillance et de vidéotransmission, de visioconférence. Donc, toute une série de coûts comme ça doivent être pris en charge par la région. Par ailleurs, si on se place du point de vue des politiques publiques, quand vous avez des politiques qui sont différentes, et là, elles étaient très différentes d'un côté et de l'autre, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez en rabattre en adoptant la politique la moins ambitieuse ? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez faire bénéficier à l'autre partie de la région des politiques qui avaient été un petit peu plus avancées d'un côté ? Ben, vous allez choisir la deuxième solution. Donc ça coûte plus cher. Donc le coût, évidemment, il est à rapporter avec le service qui est offert. Hein ? Je considère que ça n'est pas un surcoût que d'avoir un budget supplémentaire parce que le service qui est offert est plus important en matière de mise à disposition d'ordinateurs pour les lycéens, en matière de livres également, en matière de bourses de recherche pour les étudiants ou pour les thésards, en matière de financement de la culture et sous ces différents aspects plutôt en Midi-Pyrénées, qui était un petit peu moins ambitieuse de ce côté-là. Donc voilà, pour toutes ces raisons expliquent, qui sont des raisons, je dirais, organisationnelles jusqu'aux raisons politiques, expliquent qu'il ne peut pas y avoir d'économie d'échelle à court terme, et c'est une grave erreur que de l'avoir imaginée, parce que maintenant, évidemment, l'Institut Montaigne se régale de dire, vous voyez, la promesse était de dépenser moins et on dépense plus, bien sûr.
Alors, vous nous avez parlé de l'ordinateur des lycéens. Justement, pour parler un peu d'éducation, désormais, on a une seule région, mais on a deux rectorats. Est-ce qu'il y a une uniformisation des pratiques et des initiatives dans l'éducation ou est-ce qu'il reste des traits spécifiques à chaque région ?
Alors, il faut savoir, dans le domaine éducatif, c'est valable aussi dans d'autres domaines, que, en gros, la politique éducative n'a pas été décentralisée. Ça reste une politique d'État. Vous parlez des deux rectorats et vous parlez donc de la politique d'État. Et alors, c'est intéressant. Ça aussi, cette fusion, la grande surprise qu'on a eue, c'est que les services de l'État ont eu autant de mal à fusionner que les services du Conseil régional. L'État prétendait le doigt sur la couture du pantalon, avoir fusionné toutes ses politiques dès le 1er janvier 2016. On n'y est toujours pas aujourd'hui. Et l'éducation est un bon exemple. En fait, si on regarde bien, non seulement il y a deux rectorats, mais il y a des politiques qui, dans certains domaines, des domaines par exemple de réussite scolaire, là, pour essayer de lutter contre le décrochage, etc., et offrir des solutions de deuxième chance aux élèves, eh bien, on voit très bien que les dispositifs sont inspirés par des logiques très différentes en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon, et que les inspecteurs d'académie, moins ils coordonnent, mieux ils se portent.
Très bien. Alors, on enchaîne justement sur la recherche également. Alors, je pense que vous allez me faire une réponse peut-être un peu similaire, mais on a vu quand même que la région essayait de développer des dispositifs. On a vu les défis clés où on essaye de fédérer une recherche régionale, de faire travailler des chercheurs de Toulouse avec les chercheurs de Montpellier ou de Perpignan. Est-ce que cette recherche régionale, elle émerge avec cette fusion ou pas vraiment ?
Alors, le niveau régional, on ne peut pas dire qu'il soit le niveau majeur de coordination et de définition des politiques de recherche. Les chercheurs dont je fais partie, ils raisonnent à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, et à l'échelle de leur secteur en particulier, mais ils sont difficilement identifiés à une échelle régionale. Néanmoins, les politiques régionales ont un impact en matière de soutien à la recherche. Et évidemment, la politique régionale n'est pas secondaire dans ce domaine. Elle peut être importante. Et ce qui est intéressant dans le secteur de la recherche, d'une part, c'est que, alors on en est peut-être la preuve avec ce bouquin, avec Vincent Simoulin, ça a objectivement conduit les chercheurs montpelliérains et toulousains en particulier à mieux se regarder. On ne peut pas dire qu'ils se regardaient très, très fréquemment. Alors moi, je connaissais Vincent Simoulin bien avant ce bouquin, bien sûr, c'est ça qui l'a rendu possible d'ailleurs. Mais je pense qu'objectivement, ça peut renforcer des liens entre les laboratoires et les organismes de recherche de ces deux anciennes régions. Il ne faut pas non plus rêver. D'autre part, la politique régionale, j'en parlais tout à l'heure, cette fusion-là, elle a bénéficié, par exemple, aux structures de recherche du Languedoc-Roussillon, de l'ancien Languedoc-Roussillon, qui n'avaient pas, à l'époque, de financement par la région des bourses de recherche et qui, désormais, peuvent en bénéficier. Peuvent en bénéficier, bien entendu, s'ils sont excellents.
Alors, vous êtes aussi un spécialiste des politiques culturelles. Donc, théoriquement, la culture n'est pas une compétence régionale, mais vous soulignez dans votre livre que la culture, c'est un secteur d'investissement politique et administratif dans toutes les régions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une homogénéité de ce point de vue-là dans la grande région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée ?
Alors, je rectifie un tout petit peu ce que vous avez dit. La culture n'est pas une compétence régionale exclusive. Mais les collectivités territoriales ont arraché pour la culture le droit d'intervenir concurremment dans ce domaine-là. Donc du coup, c'est une compétence partagée par la région, l'État, les départements, les intercommunalités, les communes. Alors là, le domaine de la culture que je connais effectivement bien a montré, à ma grande surprise, je dois le dire, des modèles de politique culturelle complètement opposés en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Pour le dire de manière schématique, en Languedoc-Roussillon, on pensait d'abord filière et ensuite territoire. Donc il n'y a pas de convention avec les territoires à l'époque de Fraîche ni de Bourquin d'ailleurs. Il y a plutôt une logique de définition d'une politique de filière pour le spectacle, pour le cirque, pour la musique, pour le cinéma, pour le livre, etc. Et donc des grandes agences sectorielles. En Midi-Pyrénées, on a des conventions avec les territoires, des contrats culturels de territoire, et on entre d'abord dans la culture par les territoires, et ensuite on regarde ce que ça donne en matière de filière. Et ça, je peux vous garantir que secteur par secteur, ça fait des politiques diamétralement opposées. Donc, pour réunir ces deux-là, il y avait une possibilité, c'est d'avoir énormément de moyens, de mettre le paquet et de faire en sorte que les deux s'harmonisent par le haut. Sauf que c'était pas du tout le contexte dans lequel la région était. Et du coup, il a fallu complètement transformer les choses. Et d'une certaine manière, maintenir, je le dis avec prudence parce que ce n'est pas le cas partout, mais maintenir une certaine forme de juxtaposition des deux anciennes politiques jusqu'à cette élection. Et c'est une remarque générale que je fais, cette fusion-là, elle a mis beaucoup plus de temps qu'on le croyait à s'opérer, et elle ne s'est pas encore opérée dans la définition d'une politique régionale complètement nouvelle par rapport aux deux anciennes. Elle continue à hérité du passé, et c'est d'autant plus logique qu'il n'y a pas eu d'alternance politique. Carole Delga, c'est la même majorité que Martin Malvy et Christian Bourquin. Du coup, il a fallu qu'elle assume l'héritage, alors que en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Normandie, on a pu dire « Ah ben non, ça, moi, je ne le prends pas, c'était l'ancienne majorité ». Et du coup, la fusion, elle est un petit peu plus facile d'un point de vue politique.
Alors, un des grands enjeux de cette fusion, c'était la dimension économique, justement, des régions. Essayer de faire des régions qui seraient capables de concurrencer, par exemple, des grosses régions comme la Catalogne. Est-ce que cet objectif, il a été atteint ?
Non. Mais il était mal posé. C'est-à-dire que, en fait, personne ne se berçait de l'illusion qu'en étendant simplement les territoires, c'est-à-dire uniquement la géographie des régions, on allait d'un seul coup les transformer en super-pouvoirs. Le super-pouvoir d'une collectivité ne tient pas à son étendue géographique. Sinon, l'Andalousie serait un super-État. Certains Länder allemands, qui sont en fait des grosses métropoles, seraient des nains politiques. Or, en fait, il y a des puissances politiques qui sont ramenées à juste une petite, entre guillemets, une petite ville, une métropole. Donc, l'objectif était mal posé. Pour vous donner une image, la région Occitanie est presque deux fois plus importante en territoire que la Catalogne voisine, mais elle ne représente que 10% de son budget. Eh bien, une région d'envergure européenne, c'est une région qui a une capacité budgétaire, une capacité politique qui peut s'imposer sur des choix. La région, aujourd'hui, elle ne peut s'imposer, elle n'a une capacité, par exemple, une capacité fiscale, la possibilité de jouer sur un impôt, par exemple, sur le taux d'un impôt, que sur la carte grise. Hein ? On peut rêver mieux comme indice de capacité politique d'une collectivité territoriale. Pour vous donner un autre chiffre, après la fusion, les régions, c'est à peu près 30 milliards d'euros de budget au total, 30-35. Les départements, c'est encore 75. Hein ? Le département que tout le monde estime un petit peu sur la pente fatale, en déclin, voire en déshérence, susceptible d'être supprimé, ben, il tient quand même la corde.
Mais alors justement, on a parlé en introduction que tout ça, ça avait comme toile de fond la décentralisation. On peut parler de décentralisation en France ou finalement
Oui, on peut en parler, bien entendu. Mais il faut faire attention à ce dont on parle. Quand on parle de la décentralisation en France, on parle du transfert d'un certain nombre de compétences à des autorités élues. Hein, c'est le cas de la région depuis 1986. Mais au contraire de l'expérience de décentralisation dans d'autres pays, cette décentralisation ne s'est pas traduite par le transfert des autorités de l'État en région aux régions.
D'accord, donc il n'y a pas d'autonomisation. Alors.
Voilà, pour le dire d'un mot savant, la décentralisation en France s'accompagne du maintien de la déconcentration, c'est-à-dire des directions régionales de ceci, de cela, alors que, par exemple, en Espagne, pour vous donner un exemple voisin, quand il y a des communautés autonomes, l'État a des représentants sur le territoire, mais pas des représentants d'administration active, ou très peu. Il y a des gouverneurs qui représentent l'État dans chacune des provinces, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de direction espagnole de la culture en région, par exemple. Ça n'a pas de sens.
Alors, dans un mois, on va élire nos conseillers régionaux. Est-ce que, d'après vous, cette fusion, elle a eu le mérite d'attirer l'attention des électeurs sur un scrutin qui est peu mobilisateur ? Au premier tour, en 2015, on avait 50% d'abstention. Ou est-ce qu'on risque encore d'avoir une abstention forte sur ce scrutin ?
Alors, je ne suis pas doué pour l'anticipation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux tendances contradictoires à propos de ce scrutin. La première tendance est celle que vous venez de signaler, c'est-à-dire une lente décrue de la participation à ces élections régionales, qui est un tout petit peu contradictoire avec l'idée qu'il s'agirait du niveau d'avenir. Finalement, l'élection où le scrutin a eu le plus de succès, c'est l'élection de 1986, la première, et pour une raison particulière, c'était qu'il y avait en même temps des élections nationales législatives à fort enjeu. Ça, c'est donc ma première réponse. Donc le risque, surtout dans le contexte actuel, c'est un risque de participation moindre. En revanche, il y a un deuxième phénomène qui peut contrebalancer le premier. C'est le fait qu'avec 13 régions, vous l'avez vu, les scrutins régionaux ont tendance à se nationaliser, à devenir des enjeux nationaux. Surtout qu'on est à proximité d'une élection présidentielle. Donc on est dans une grande répétition avant l'élection présidentielle de 2022. Ça peut mobiliser l'électorat. Mais dans quelle mesure ? Et dans quelle mesure la deuxième tendance contrebalancera la première ? Je serais bien infoutu de vous le dire.
Alors, vous aviez déclaré l'année dernière, dans le contexte des élections municipales, que le fréchisme était mort, ce qui, bien sûr, pour la presse, est une formule forte. Est-ce qu'au niveau régional, cette fusion a définitivement tourné la page, justement, de Fraiche ?
Ben, quand on voit que toutes les listes pour les élections régionales ont comme tête de liste quelqu'un qui est d'origine midi-pyrénéenne, on se dit que la politique languedocienne a du plomb dans l'aile, pas simplement le fréchisme. Et d'ailleurs, le fréchisme, il faudrait des heures et des heures pour le définir et pour dire que finalement, c'est un peu difficile à définir. Vu en plus aujourd'hui les gens qui se réclament d'un héritage fréchiste tout en faisant à peu près le contraire de ce qu'il a toujours combattu ou toujours au contraire soutenu. Le fréchisme, je dirais qu'il était déjà mort avant d'une certaine manière les premiers pas de la fusion et se confirme avec cette fusion l'idée que ça n'est pas avec une culture politique de l'exacerbation des conflits qu'on réalise des fusions. C'est plutôt dans des logiques de compromis qui sont certes quelquefois peu glorieux, qui ne sont pas forcément durables, mais qui permettent de faire avancer les choses.
Alors en un mot, parce que le temps passe vite, on parle de fusion depuis tout à l'heure, d'après vous, est-ce que cette fusion, elle a vraiment eu lieu ou est-ce qu'on est dans une fusion de façade ?
Alors c'est compliqué parce que c'est compliqué de vous répondre parce que selon les secteurs, on est plus ou moins dans une fusion effective et selon d'autres, on est dans une plus grande difficulté. Comme je le disais tout à l'heure, ça ne concerne pas que la région, ça concerne aussi les politiques de l'État. Et finalement, on découvre que les régions existaient et que les régions existaient aussi pour l'État, qui adaptait ses politiques en fonction des territoires. Donc ça, c'est particulièrement important. Et du coup, ça explique aussi la lenteur de la fusion. Alors, je dirais, fusion de façade, ce serait un peu excessif. Mais fusion donnant lieu à une nouvelle politique qui nous fait oublier les précédentes, ça n'est pas vrai non plus. Donc on est dans une espèce d'entre-deux, un mandat de transition qui, je pense, prendra fin avec le début du prochain mandat.
Emmanuel Négrier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
On arrive déjà donc au terme de cette émission. Merci beaucoup à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.